Bonjour, je peux vous poser une question pour une radio ?
Si vous voulez.
Vous êtes venu voir quoi ?
Le cirque Arcaos, j'ai déjà vu à la télévision il y a quelques années, je ne sais plus, il y a 3, 4 ou 5 ans, un reportage sur eux, c'était magique. Donc quand j'ai vu que c'était Montpellier, je suis venue. Voilà.
Bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Bonsoir, je peux vous poser une question ?
Oui.
Vous êtes venu voir quoi ?
Un spectacle de cirque.
Vous connaissez le cirque ?
Oui, je connais le cirque. Pas tous les cirques.
Et Arcaos, vous les connaissez ?
Oui.
Ouais.
Oui.
Vous avez déjà vu des choses d'eux ?
Oui, un spectacle à Saint-Jean-de-Védas.
Ah oui ?
Oui, oui, oui. Et ma compagne en a vu il y a 25 ans. 20 ans. Si, si.
Il y a combien de temps vous avez vu Arcaos ?
88, 9 par là.
Quel souvenir vous en gardez ?
Une révélation. Waouh, ça peut être ça le cirque. Voilà.
Bon.
Il balançait des poules du haut du chapiteau et il montait avec une tronçonneuse. Quand on a 10 ans, ça marque.
Mardi, backstage.
Je peux vous poser une question pour la radio ?
Oui.
Vous allez écouter quoi ce soir ?
Ben, une émission de radio, je sais pas, c'est pas moi qui ai allumé le poste.
Vous savez au moins sur quelle radio vous êtes ?
Ah oui, oui, on est sur Divergence FM 93.9.
Ce soir, il est question de cirque. Vous connaissez le cirque ?
Ah oui, bien sûr, oui, je connais le cirque. Enfin, pas tous les cirques, hein, mais...
Et le cirque contemporain ?
Oui, oui, le cirque contemporain, je connais aussi. Il y a moins de tigres, mais souvent, il y a plus de cirque.
Et Arcaos, ça vous dit quelque chose ?
Ah oui, Arcaos, c'est une compagnie mythique du cirque contemporain. Ça fait 30 ans que ça existe, Arcaos. C'est à cause d'eux qu'on s'est mis à parler de cirque contemporain. C'est des gens qui ont révolutionné le cirque complètement. C'était un truc complètement nouveau. Il y avait Arcaos, il y avait la Fura del Baos, il y avait le Cirque du Soleil. C'était des gens qui ont balancé à la fenêtre tous les codes du cirque. Ils ont fait voler en éclats tout le folklore traditionnel du cirque. Ils se sont mis à faire autre chose. Arcaos, c'était un cirque punk. C'était des gens qui faisaient des choses absolument incroyables sous un chapiteau, ou ailleurs que sous un chapiteau d'ailleurs. Ils ont changé complètement l'esthétique du cirque. Aujourd'hui, c'est différent, Arcaos. C'est plus un cirque punk, c'est un cirque sage. Ils ont vieilli, quoi.
Justement, c'est qui ils ont vieilli ?
Celui qui dirige Arcaos, c'est toujours Guy Carrara, c'est un des fondateurs d'Arcaos, qui est un metteur en scène de théâtre, qui est venu au cirque un peu par hasard, et qui a aidé beaucoup, d'ailleurs, à dynamiter les codes du cirque, comme ça, parce que, comme il le dit souvent, il n'aime pas le cirque, Guy. Donc ça lui permettait de mettre à bas tout ce qu'il aimait pas dans le cirque et de faire quelque chose de complètement différent. Et c'est pour ça qu'Arcaos est devenu une espèce de mythe du cirque contemporain, même si aujourd'hui Arcaos fait d'autres choses, beaucoup de formations et beaucoup de travail sur les métiers du cirque. Donc c'est quelque chose d'un peu spécial. Par exemple, je les ai vus là au Domaine d'eau. C'est le lieu qui est dirigé par Christopher Krems, maintenant, le Domaine d'eau.
Christopher Krems, que nous avons reçu lors d'un mardi miam miam le mois dernier.
Absolument, en décembre, un Anglais qui aime bien le cirque contemporain. Et là, ils étaient là au mois de décembre pour un spectacle qui est un peu spécial, puisque c'est un spectacle qui est fait par des gens qui sortent juste d'école de cirque. C'est leur premier spectacle professionnel. C'est de l'insertion professionnelle. C'est un programme d'insertion professionnelle. Et ça, c'est une reprise du dernier grand spectacle d'Arcaos qui s'appelle In Vitro, qui est un spectacle sur la génétique.
Thank you. Bonjour Guy Carrara.
Bonjour François.
Tu es un des fondateurs d'Arcaos. C'est celui qui a tenu la maison commune pendant toutes ces années. C'est quoi Arcaos en 2010?
C'est Arcaos de toujours. Hein. Arcaos, c'est un truc... C'est un mouvement perpétuel. C'est... Bon, c'est idiot ce que je dis, mais en fait, c'est une boucle incessante. C'est la création permanente. Donc de toute façon, ça repart à zéro sans arrêt. Donc Arcaos, c'est toujours aujourd'hui.
Raquel, tu as vécu toute l'histoire d'Arcaos, en tout cas de longues années. C'est quoi Arcaos aujourd'hui?
Raquel Rache de Andrade, metteur en scène.
Arcaos aujourd'hui, c'est la transformation, mais c'était déjà au tout début. Et c'est ne jamais être ce qu'on a été avant. Donc du coup, c'est ça qui me plaît à Arcaos, c'est que... C'est comme un chapiteau, c'est un peu un endroit interdit, où on n'a pas de certitude, où tout peut se passer, et les meilleurs et les pires. Voilà.
Et en même temps, esthétiquement, c'est très différent de ce que ça a été il y a 20 ans. Il n'y a plus le bruit et la fureur tel que vous le viviez quand vous aviez 20 ans. Vous.
Oui, et il a évolué, on a évolué, on a grandi. On a peut-être s'assagi, mais surtout, on a acquis une expérience qu'on n'avait pas. Et le monde a changé. Mmh. Et nous, on a changé avec le monde. Et il faut vraiment être avec son moment. On ne peut pas être tout le temps décalé et on ne fait pas la révolution tous les jours.
C'est combien de temps que tu bosses pour Arcaos?
10 ans.
10 ans,
ouais.
Depuis une Vitro 99.
Oui, voilà. Ouais. Ouais, j'ai intégré sur une Vitro 99. Je cherchais un serrurier.
Hervé Biget, régisseur général.
Et ils étaient en création et ils ne trouvaient pas. Et puis le régisseur général de l'époque que je connaissais, qui était régisseur lumière, le directeur technique en fait, était un pote. Et voilà, il m'a dit, mais moi j'en connais un. Hop, il a appelé, je suis venu, et voilà, depuis ils m'ont gardé. Et je suis resté.
Donc t'as pas connu l'Arcaos de bruit et de fureur?
Non. Non, je suis arrivé juste après.
Ça reste un truc. Ouais.
J'ai bossé avec. J'ai souvent rencontré, et j'ai même bossé avec des gens qui ont participé à ça. L'autre compagnie qui va venir, qui fait la soirée du Nouvel An, Mécanique Vivante. Franz Crochard, c'est un de cette époque-là. J'ai été bossé, je le connais bien, j'ai été bossé avec lui. Donc, du coup, j'ai souvent entendu parler de cette époque d'Arcaos, sans en fait, je l'ai vu aussi des vidéos, tout ça. Mais bon, ça, c'est pas mon histoire.
Thank you.
Je parle, dans une phrase, je parle trois trucs à la fois, je me comprends même pas moi-même. Alors,
Valérie,
c'est horrible. T'enregistres mes conneries.
J'aime beaucoup ça.
J'adore, c'est Raquel hier au repas, tu sais, qui fait une annonce en portugais.
Ouais.
Mais tout de suite, elle a oublié de traduire en français.
Ouais.
En anglais derrière. En anglais, c'est surtout pour John, qui a lu ce qu'il traduit en même temps.
Ouais, je te jure, tu commences une phrase en français, tu sais trois mots de portugais, alors tu les places, après tu finis, tu reprends en anglais, et puis tout d'un coup, le mot en anglais, tu ne le connais pas. Mais finalement, le mot en portugais, peut-être que tu le connais un peu mieux, parce qu'il se rapproche plus du français, alors tu places ton mot en portugais, mais qui n'est absolument pas correct. Enfin bref, je ne dis pas le bordel. Et alors, les premières mises en place à Rio, carrément. Alors là, ne comprenant absolument rien en portugais et ne parlant pas le portugais. Tout avec les mains, avec des bruitages.
Chico Pico, le professeur de brésilien transactionnel.
Oi!
Et Robertinha, l'assistante de brésilien.
Oi!
Vous présente la méthode apprendre brésilien. C'est tout facile. C'est pas de problème.
Pas de problème.
Jamais de problème. Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Porto Alegre.
Porto Alegre.
Recife.
Recife.
Brasília.
Aí é a Brasília.
Avec le brésilien, tu peux parler partout dans la carte.
Partout dans la carte.
Et tu rencontres du monde. Tu n'as pas besoin de tout le matériel.
Matériel.
Tu as juste à regarder les vidéos sur YouTube.
C'est tout facile.
Tu regardes les clips. Pas de problème. Tu as juste à cliquer sur YouTube.
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba, sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer.
y avait toujours eu des artistes qui venaient de beaucoup de pays différents dans Arcaos. Là, il y avait une chose différente, c'est qu'ils venaient d'école, avec tout ce que ça représente comme héritage, comme vision. Il y avait une grande différence dans la vision dont on enseignait le cirque, tel que toi, tu l'as reçu quand tu as reçu le groupe.
Oui, de toute façon, en Europe, donc, il y a une évolution depuis 25 ans sur l'enseignement, avec l'apport du théâtre, de la danse, qui s'est fait beaucoup plus que dans d'autres pays, donc d'abord en France, après ça a suivi en Belgique, en Grande-Bretagne, donc les écoles européennes sont en train de rattraper, en prenant en plus des caractéristiques différentes, hein, c'est pas le modèle français, mais elles sont en train de rattraper, on pourrait dire, en qualité du travail du geste acrobatique, et puis sur la diversité de l'enseignement, en qualité de direction d'acteur, de chorégraphie, de danse. Enfin. Au Brésil, cette école a été créée il y a 25 ans, en 82.
Avant le CNAC.
Avant le CNAC, hein, donc c'est une des rares écoles d'État par les pays de l'Est qui a été créée il y a fort longtemps, donc où c'était plus d'un seul coup la transmission par la famille. Donc c'est quelque chose de formidable que ça existait au Brésil déjà à cette époque-là. Et c'était un grand projet. Donc ce sont des artistes de cirque traditionnel qui sont venus enseigner. Et il ne s'est pas développé au Brésil ce qui s'est développé en France. Donc la rupture, on pourrait dire la rupture non seulement sociétale mais dans le monde culturel de l'après 68. Je pense qu'ici en Europe et spécifiquement en France ça a été beaucoup plus tranché et violent. Il y a eu une rupture. Alors que là-bas, il y a un changement dans la continuité, beaucoup plus doux. Et puis, les conditions économiques de financement de la culture ont fait qu'il ne s'est pas développé ce qu'on appelait le nouveau cirque et puis le cirque contemporain par la suite. Néanmoins, il y a deux ou trois compagnies et il y en a une qui s'appelle Intrepida Troupe qui existe depuis cette époque-là, depuis plus de 20 ans. 25 ans peut-être, et qui a été créé, qui fait un travail très intéressant, que moi je trouve très intéressant. Mais effectivement, il n'y a pas tout le mouvement et l'émulation qui a eu lieu en Europe, puisqu'ici on est passé de 15 à 500 compagnies en 15 ans. Donc,
elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur.
Cette rupture dont tu parles, Arcaos en a été un des éléments forts avec deux ou trois compagnies. Hein. Il n'y en avait pas tant que ça dans les années 80. Il y avait les Catalans de la Forêt d'Albaos, il y avait Royal Deluxe qui faisait du... qu'on appelait encore le cirque à l'époque. Il y avait déjà le Cirque du Soleil.
Oui, le Cirque du Soleil à la même époque. Dans le cirque Plume. Le cirque baroque, vraiment pour le cirque, parce qu'autrement, il y avait le mouvement général, art de la rue, théâtre alternative, nouveau cirque. Donc on citait souvent les trois compagnies, donc Arcaos, Forêt d'Albaos et Royal Deluxe, comme les têtes de pont médiatiques au niveau mondial. Après, au niveau du cirque en France, il y avait le cirque Plume, cirque baroque, cirque Arcaos, qui étaient les trois plus grosses compagnies, il y en avait une dizaine d'autres, importantes certainement, mais moins conséquentes en volume et en impact médiatique.
Alors, cette rupture dont tu as été un des acteurs, toi qui n'es pas un homme de cirque, qui est venu au cirque par d'autres biais, comment tu la vois aujourd'hui avec 20 ans de recul ? C'est quoi le cirque en France ? C'est quoi le cirque dans le monde ? Est-ce que c'est vraiment complètement différent de ce que c'était il y a 25 ans ?
Il ne faut pas exagérer non plus l'importance du cirque contemporain. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que c'est un des endroits de création du spectacle vivant où ça va le plus vite, où il se passe le plus de choses. J'ai été administrateur à la SAC, donc à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques pendant 3 ans là, et pendant mon mandat, les droits d'auteur perçus dans le répertoire cirque ont augmenté de 47%. Donc c'est assez phénoménal, donc il se passe quelque chose. Mais au niveau du grand public, le cirque, c'est encore le cirque. Hein. Voilà, c'est un mouvement qui va prendre encore du temps. Alors, moi je pense que pour que ça ne reste pas qu'un phénomène de mode, il faut qu'on considère qu'on est au début de quelque chose, au début d'un courant. Il s'est passé quelque chose et maintenant il faut le structurer, il faut travailler, il faut continuer. Pour moi, c'est un début.
Ça veut dire quoi le structurer ? Parce qu'il y a eu les créations des écoles, le CNAC, d'autres... Et aujourd'hui, il y a plein d'autres formes qui se créent. Il y a d'autres écoles, d'ailleurs, qui sont créées. Dans les fondateurs d'Archaos, il y a eu Pierre Aubillon est parti fonder le Sud Haute Cirque. Martine a fondé Balthazar, qui sont plus des cirques, qui sont de vraies écoles. Dans Archaos, il y a le CREAC. C'est quoi le CREAC? C'est quoi cette extension? Qu'est-ce qui te fait tirer, toi, comme ça, vers à la fois la recherche et la formation?
Bon, il y avait le désir pour Raquel et moi de créer un lieu de rencontre pour les artistes et un lieu de transmission. Parce que pendant plus de 20 ans, Archaos a été un lieu où beaucoup d'artistes passaient, tu l'as dit, de plein de nationalités différentes, de cultures différentes, de formations différentes. Et puis, on est devenu une compagnie moins grosse en volume, qui tourne moins. On s'autoproduit pas dans le monde entier tous les jours comme on faisait avant. Maintenant, on est une compagnie plus classique, c'est-à-dire qu'on tourne quand on nous programme, ou alors on fait des coproductions, bien sûr, mais c'est moins intensif. Donc, il nous fallait, retrouver ça ailleurs. Donc, il fallait qu'on crée quelque chose où on rencontre d'autres artistes pour garder ces croisements, ce nécessaire besoin de rencontre. Donc, on a décidé de créer ce qu'on a appelé le Centre de Recherche Européen des Arts du Cirque, il y a 7 ans. Et c'est pas par hasard si on l'a appelé comme ça, alors que c'est simplement la compagnie qui a ouvert un lieu et qui l'a initié, dirigé et financé avec ses petits deniers. Mais en fait, on a décidé à ce moment-là, c'était important justement de structurer l'ensemble du courant et du mouvement au niveau européen. Parce qu'il y a eu le développement au niveau de la France. Après 2001, après l'année des arts du cirque en France, donc initiée par le ministère de la Culture, il y a eu une douzaine ou 11, je crois, pôles cirque identifiés dans des régions différentes. Ce qui est très bien, ce qui commence à faire une structuration, un maillage en France, même s'ils sont pour la plupart dans des petites villes, avec des budgets qui sont pas tous à la hauteur de l'ampleur des dégâts.
Mais pas en Provence-Alpes-Côte d'Azur, par hasard.
D'ailleurs, on n'en a pas en PACA, parce que nous, en PACA, pour l'instant, quelques acteurs à qui on aurait proposé d'être un pôle comme chez nous, on a dit, mais nous, on est une région pôle. Il se passe plein de trucs chez nous, voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est cette posture, en tout cas. Mais donc, on s'est dit qu'au niveau européen, par contre, il fallait faire la même chose, donc créer des centres européens. Et puis, parce que les écoles se créent dans toute l'Europe, hein, comme tu l'as laissé entendre tout à l'heure, donc j'en ai cité qui sont partenaires de ce projet, mais il y en a d'autres, ça avance très vite. Je pense que l'écart va se réduire vraiment avec ce qui se fait en France. Et puis, par contre, au niveau de la diffusion, donc déjà, il y a un développement en France qui est important, mais ça reste quand même limité par rapport à la profusion des propositions de création. Il faut aussi développer au niveau européen tout ça. Et donc, le Centre de Recherche Européen des Arts du Cirque, c'est l'idée que on va recevoir plein de compagnies de toute l'Europe, on va échanger avec toute l'Europe. Et dans notre idée, il y a l'idée de création d'une grosse manifestation européenne. Je n'étais pas sûr, je rêvais, mais je pensais que j'arriverais pas à Marseille. Je me dis peut-être que je ferais ça à Madrid, à Barcelone, à Londres, à Berlin, je sais pas. Mais en fait, il y a eu l'opportunité avec Marseille-Provence 2013, donc le fait que Marseille soit élue capitale européenne de la culture, de proposer un projet. Donc on a proposé le projet d'une biennale internationale des arts du cirque. L'idée, c'est de se dire qu'il faut une grosse manifestation dans une grosse ville, enfin, au niveau européen, pour que d'autres imitent la chose, et puis qu'on ait des grosses manifestations comme ça dans tous les coins de l'Europe, et puis que se créent des structures un peu équivalentes à ce qu'on a, nous, on a fait un brouillon de ce que ce serait un centre de recherche européen des arts du cirque. Donc, nous, déjà, si on a cette opportunité d'arriver à tirer vers le haut, peut-être qu'on entraînera une structuration au niveau européen. Voilà, c'est une idée comme ça. C'est un petit peu comme quand on a créé Archaos et qu'on a fait des succès un peu partout dans le monde, en Australie, en Grande-Bretagne. Si Circus Space existe, c'est parce qu'Archaos a fait un carton en Grande-Bretagne pendant quelques années. Si en Scandinavie se développe maintenant à Copenhague, à Stockholm, Helsinki, des centres, et même des centres de formation au niveau universitaire en Scandinavie, c'est parce qu'Archaos aussi a fait très très fort, avait une très très forte présence au début des années 90, fin des années 80, début des années 90. Donc, Archaos a été ça aussi, ça a été lancer quelque chose. Et puis maintenant, avec le CREAC et cette biennale, l'idée est de continuer, nous, à notre manière, de participer à l'avancement.
Mardi, backstage.
C'est un autre univers que l'Archaos, ces 5-6 années énormes d'Archaos, où tu le disais dans les discussions qu'on a eues, il y a des moments où tu tournais n'importe où, il y avait des boîtes de prod dans tous les pays où tu tournais, des smirmors qu'on veut, tu en vois là. Tu regrettes ça?
Non, non, pas du tout, pas du tout, non, non. En plus, je suis pas du tout attaché au matériel et à la forme, donc c'est très drôle quand je suis plutôt quelqu'un de l'abstrait, et de la réflexion et de l'indicible. Mais par contre, je pense que toute réflexion de fond, toute démarche mérite une démarche, une réalisation, une mise en forme. Hein. Donc il se trouve que comme on voulait revisiter la scénographie du cirque et puis travailler tout le temps très vite à l'invention d'un nouveau langage, il fallait qu'on ait un laboratoire permanent. Donc de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution que de créer des gros chapiteaux pour revisiter et travailler tout ça, la scénographie dans son ensemble. Et puis si on voulait travailler tout le temps, il fallait s'autoproduire. Donc de toute façon, à partir de là, tu prends la décision et tu fonces. Donc ça implique gros matériel, enfin, etc. Mais c'est un détail technique. C'est un détail technique. Ce qui est important, c'est l'idée, l'envie, la motivation.
Et avec Arcaos, tu bosses depuis quand ?
Eh ben écoute, on s'est rencontrés à Rio, parce qu'il fallait quelqu'un qui soit capable de reprendre un truc dans la merde.
Roselyne Moisy, régisseuse lumière.
Et avec beaucoup de problèmes, puis quelqu'un qui grimpe aussi. Donc voilà, au début j'ai refusé parce que Rio c'est loin, puis ça tombait un peu dans les vacances quoi. Et puis je sortais de tournée, j'étais un peu fatiguée. Puis en fait ils ont tellement insisté que je me suis dit pour le fun, puis l'expérience, quoi, enfin pour l'histoire, j'ai envie d'essayer. Et puis après, bah, tu t'attaches, hein, c'est comme avec les cochons d'Inde, tout ça, les animaux. C'est vrai. Du coup, voilà, je suis restée.
Bonsoir. Tu es venu voir quoi ?
Je sais pas.
Mais je sais pas quoi. Un cirque.
Arcaos.
Tu connais pas ? Et vous ?
Bah non, c'est une surprise.
C'est une surprise ?
Ouais.
Bonsoir. Je peux vous poser une question ? Vous êtes venu voir quoi ?
J'en sais rien.
Vous n'en savez rien ?
Une femme qui a pris les billets.
Ben Arcaos, c'est un cirque contemporain encore, qui fait encore partie des cirques nouveaux. Et
Valérie Bordeaux-Debat, productrice.
Qui essaie toujours d'aller de l'avant pour essayer d'avoir des concepts où peut-être les autres compagnies ne vont pas forcément penser, avec des projets pour toujours aller aider les artistes, aller aider la création des projets avec des jeunes compagnies, pour que les artistes puissent s'entraîner dans des lieux décents, pour qu'ils puissent avoir des lieux où les gens peuvent être accueillis pour pouvoir répéter leurs créations. Pour pouvoir essayer de faire passer des messages sur scène aussi à travers un public et qu'on reste pas dans une connotation cirque habituelle comme beaucoup de gens. Ouais, on va voir du cirque, ah oui, d'accord, c'est joli. Bon, mais pour essayer aussi de faire passer des idées, quoi.
Pour donner du sens, en fait.
Oui, voilà, pour donner du sens et pour donner de la constance à cet art qui sont les arts du cirque. C'est pas simplement on fait des galipettes sur un trapèze ou sur des cordes ou sur des tapis, quoi. Ça va au-delà de ça. Et souvent, les gens, ils oublient ça, quoi.
différent de ce que tu avais connu au Brésil, Arcaos?
Oui, c'est différent. Mais il y a pas beaucoup de mouvements circassiens contemporains dans le Brésil. Pour ça, c'est différent.
Adélie Constantini, acrobate.
C'est ce que tu avais envie de faire, du cirque contemporain?
J'ai fait parce que dans l'Italie, c'était une école de cirque contemporain. Alors j'ai vu un peu d'expérience là-bas, mais plus, je crois, dans le cirque traditionnel.
C'est quoi la différence?
Le traditionnel, pour moi, est plus statique et est plus vite pour arriver dans l'audience, tu vois. Et contemporain, il y a encore un autre chemin pour arriver dans l'audience. Mais c'est complexe. Je ne sais pas expliquer bien.
Il y a plus d'improvisation.
Il y a plus de liberté, plus expressive pour l'intérieur de chaque artiste. Et moins en général et moins de forme prête déjà, tu vois. C'est plus libre pour créer.
La lumière, c'est la musique des yeux, tu le sais ça?
La lumière, c'est la musique des yeux? Ouais, c'est vrai, t'as raison.
C'est pas moi, c'est Alcan.
Roseline Moisy, régisseuse lumière.
T'avais fait d'autres cirques?
Ouais, j'ai fait le footband, mais il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Mais là, c'était du brut de pomme. Hein. Parce qu'on montait le chapiteau. C'était beaucoup moins drôle. Maintenant, avec l'âge, j'arrive que pour la lumière. C'est quand même plus confort, quoi, tu vois. Sans déconner.
C'est quoi un cirque?
Eh ben, c'est des murs tout mous qui prennent la flotte. Non, mais le cirque, c'est surtout que le public est en cercle et autour de la structure, enfin autour du décor, c'est pas la même visibilité, c'est pas les mêmes réglages, c'est pas la même accroche, c'est pas... Tu t'adaptes, t'es obligé de t'adapter selon la hauteur, selon... C'est vachement intéressant, en fait. C'est vachement plus intéressant qu'un théâtre où tout est en place. Enfin, moi, j'aime bien les trucs où on galère un peu, quoi. Faut mettre le harnais, faut monter au toit, faut tirer les câbles... Ouais, puis je sais pas, un cirque c'est orange ou c'est bleu avec des étoiles ou c'est à rayures. Des fois il y a des lions, des fois il y a des Brésiliens. Tu vois, des fois c'est vachement rigolo en fait. C'est vrai. Mais moi je fais beaucoup de théâtre traditionnel et de danse. Donc c'est vrai que le cirque c'est quelque chose que. Enfin, pour moi c'est plus une découverte qu'une habitude, quoi. C'est quelque chose que. Bon, que je découvre pas maintenant parce que j'ai déjà foutu les pieds dans un cirque, mais. D'avoir la responsabilité de balancer un spectacle dans un cirque, c'est pas pareil. Au niveau des fiches techniques, c'est pas pareil. Quand tu dois envoyer ta fiche technique avant, on t'envoie une photo en coupe de ça. Tu, tu fais ouais, d'accord. Si tu la prends à l'envers, t'es mort. Si tu la prends à l'endroit, tu peux faire un truc. Quoi.
Faire la musique d'un spectacle de cirque, c'est quoi? C'est un truc très différent de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Il faut s'adapter en permanence à ce qu'il y a sur scène.
Alors, en spectacle, déjà, tu t'adaptes beaucoup.
Arnaud Bertrand, création musicale.
Après, tu as des approches qui sont différentes. Je travaille aussi avec de la danse contemporaine. on arrive en danse contemporaine à plus facilement figer les choses. Et puis il y a une demande des danseurs, enfin, et du chorégraphe à ce que qu'il y ait des repères musicaux pour que les danseurs puissent se caler dessus ou puissent volontairement ne pas se caler dessus. En cirque, c'est particulier parce que les techniques circassiennes, sans dénigrer les techniques de danseurs, hein, mais les techniques circassiennes, parfois il y a du danger, il y a de l'imprévu, il y a des blessures, il y a des choses comme ça. Et donc, oui, il faut vraiment s'adapter tout le temps. Pour le coup, je trouve vraiment intéressant l'idée de construire la musique. Si tu veux, moi, j'ai construit les musiques sur ce spectacle, j'ai fait les propositions musicales. Et ensuite, j'ai déconstruit la musique pour pouvoir être en interprétation de cette musique. Mmh. Donc, si tu veux, j'ai des bases, j'ai des canevas, mais dedans, je suis en improvisation en fonction de ce qui se passe. Je trouve que pour le cirque, c'est vraiment bien de faire ça. Parce que, du coup, tu peux vraiment répondre. Il me semble que tu es plus juste. Quoi. Voilà. Mmh. Donc, ouais, c'est un exercice particulier, mais super intéressant.
Tu es à leur service, en fait.
J'essaye de l'être, mais sans m'abandonner. J'essaye de l'être au maximum, ouais. Je crois que j'essaye de les suivre complètement, quoi. Sans faire du surlignage, sans dire, tiens, là, il fait ça, bloum, j'envoie ce truc, là, il fait ça, non. Faire évoluer la musique en fonction de ce qu'ils font, sans être vraiment bande dessinée, tu vois, suivre, ils donnent... un geste et j'envoie boum, tu vois.
Eh ben, commence là avant. Deux secondes. Trouve-toi un truc.
Ouais, je crois que je vais voir ce que je fais.
En même temps, si on fait comme d'hab, je pense qu'on peut se démerder au feeling. Aussi. Donc, je sais pas, parce qu'à chaque fois, on se dit des trucs et puis.
Mais c'est sur le vif.
En live, c'est pas valable.
Ouais, t'es sur le vif, tu vois. Non, mais je peux penser effectivement au moment où t'as les mains qui tombent.
Quand les mailles tombent, ils sont dans la fête. Putain, là, s'il n'y a pas de la lumière, je m'appelle pas Rosine.
Mais ouais, non, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de lumière à cet endroit. Qu'il n'y ait pas la fête en ce moment.
Il y a moins de la lumière sur le carrousel que sur la fête. Quelque part. Pour les mains.
Signé Furax.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon général, ma sœur, la lumière qui éteint, 12e épisode.
When Buckminster Fuller came to Canada, he kept asking the same question.
Have you ever really considered how much your buildings actually weigh? The Canadians took this very seriously. Maybe never thought of it that way. He showed them pictures of domed cities. Cities with no basements, no foundations. Cities that could be moved in a minute. Portable cities. Portable towns. He said, think of it as camping out. He said, think of it as one big tent. We said, think of it as the big top spinning, lightweight, portable. He said, think of it as the big top spinning, lightweight. He said, think of it as the big top.
Chaque soir différent, et de toute façon, le spectacle est chaque soir différent. Ça, c'est le spectacle vivant, et c'est comme ça.
Guy Carrara, metteur en scène.
Et dans le cirque, ça l'a encore plus. Parce qu'il y a cette volonté de refaire, de dire différent. Moi, je vous ai vu pendant 3 jours à changer les agrès, à changer la disposition. On ne peut pas faire sans.
C'est surtout que on prend un temps de travail de création. Alors là, on avait 2 mois hein, avec ces jeunes. Il en aurait fallu 5, je pense, pour vraiment travailler bien. Et c'est pas un problème. On a 2 mois, on fait avec 2 mois. Mais même si on a 5 mois, de toute façon, ce type de spectacle qui est ambitieux parce qu'il essaie d'avoir une dramaturgie, une narration, tout en utilisant les techniques de cirque. Hein, et c'est souvent contradictoire et complexe, pour que l'artiste de cirque arrive à interpréter en utilisant ses techniques et souvent des nouveaux agrès qu'il n'avait jamais utilisés, il lui faut un temps important. Il faut que le spectacle se joue, il faut qu'il se joue. Moi, je pense que ce spectacle, quand il aura été joué 50 fois, sera mûr, mais il ne sera pas terminé. Ça veut dire qu'après, même, il va falloir lutter contre le fait qu'il va s'habituer à lui-même. Donc, il faudra le réveiller. Donc, on va continuer ce travail. De temps en temps, on le reprendra, on retravaillera. On perturbera les artistes. On va les fragiliser. Il faut retravailler, continuer, chercher. Parce qu'il y a forcément toujours des idées qu'on n'a pas encore trouvées.
Ça, c'est difficile, quand même. Parce que c'est un truc qui reste, et pour le public et pour les artistes, extrêmement physique. C'est d'abord un travail sur le corps. Et en même temps, vous les tirez, tous ces jeunes artistes, vers leur capacité à exprimer par leur corps tout un tas d'autres choses. C'est pas évident à 20 ans, à 22, 23, 25.
Oui, tu as raison. Mais c'est un petit peu valable pour l'ensemble des artistes, que ce soit des peintres, des musiciens, des écrivains, etc. Je crois que de toute façon, voilà. Il y a certains artistes très précoces, on parlait de Rimbaud, il y en a plein comme ça. C'est assez rare quand même. C'est assez rare qu'il y ait une charge de vie qui soit capable d'exprimer des choses très très jeunes. Ça arrive. Donc d'une manière générale, on a besoin de vivre, et vivre à l'intérieur de sa profession, mais vivre aussi dans la vie pour être capable de, voilà, d'avoir une charge de vie qui permette de transmettre des choses. C'est valable pour les acteurs, les comédiens, les danseurs.
Et en même temps, il y a quelque chose de compliqué dans le cirque, c'est que, y compris avec cette révolution-là, les écoles sont venues, il y a la formation diplômante, on est artiste de plus en plus tard. Et on reste artiste toujours à peu près le même temps. C'est-à-dire qu'à 40 ans, il faut se poser la question de savoir ce qu'on va faire après.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis aussi 25 ans. Et je combats pour parler de la reconversion depuis toujours. Alors, on a avancé un petit peu parce que maintenant, il y a des plans de reconversion avec l'AFDAS où les artistes sont effectivement aidés sur une période de reconversion. Moi, je pense qu'on devrait aller plus loin. Je continue de militer pour ça. Je pense qu'un artiste de cirque, à l'école, on doit lui dire « Tu vas rentrer dans la profession et sache que quand tu auras cotisé, je vais dire un chiffre au hasard, 15 ans, tu auras droit à 5 ans de formation dans quelque domaine que ce soit et tu seras rémunéré pendant cette formation. Mais tu le sais même avant de commencer ta profession. » Je pense que c'est important parce que sinon, ces gens-là jouissent tellement de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils montrent, de ce qu'ils reçoivent du public, etc., que de toute façon, ils se mettent des œillères pour ne pas voir le moment où ça va s'arrêter. Et puis, de toute façon, quoi faire? On ne veut pas le savoir. Donc, ça leur arrive dans la tête, comme ça, à 40 ans, à peu près, ou plus ou moins, suivant les gens. Et c'est très cruel et très difficile, et il y a des dégâts. Donc je pense que par contre, si on le sait longtemps à l'avance, au fur et à mesure de son vécu, justement, de ce qu'on va croiser, rencontrer, eh bien, tout doucement, on va se construire des envies ou pas d'aller quelque part plus tard. Et je pense que cette ouverture au monde, donc, de fait, plutôt que les œillères, est certainement aussi bénéfique pour le parcours de la création, hein, pour être créatif, plus ouvert au monde et tout ça.
Là, dans le parcours créatif, justement, tu as rencontré deux éléments essentiels dans un plateau de cirque, c'est la musique et la lumière. Ils sont nouveaux, vos deux partenaires, là, Arnaud et Rose. Dis-nous comment ça se passe, une rencontre comme ça.
Alors, je vais parler d'abord de la lumière, par exemple. Alors, la lumière, c'est pas Rose qui a fait la création lumière, c'est Pascal Bongiovanni qui était là hier soir, c'est pour ça que j'en parle, qui est venu voir le spectacle qu'elle n'avait pas vu depuis Rio. Et elle avait travaillé sur Game Over, donc c'est pas elle qui faisait la création lumière à cette époque-là, mais elle était assistante à celui qui faisait la création lumière, et on a vu un super contact, et depuis elle est montée dans la carrière, etc., et elle travaille avec plein de gens, et elle fait lumière du Bercola à Marseille, et le Théâtre du Centaure, et plein de gens, je vais pas pouvoir les citer là comme ça de mémoire. Et j'ai toujours pensé, tiens, elle est à Marseille en plus, il faut absolument que je retravaille un jour avec Pascal. Et puis c'est trouvé là qu'elle était disponible et puis que je lui ai fait une proposition pour le moment. Donc elle est venue à Rio faire la création lumière. Et c'est elle qui a choisi donc la personne qui ferait la continuité de son travail et qui assumerait la tournée et l'adaptation de la lumière suivant les lieux où on travaille. Donc c'est Roselyne, avec qui elle bosse souvent, qui le fait. Et c'est formidable parce que... Elle réussit maintenant qu'on joue sous un chapiteau, un grand cirque en dur, un théâtre à l'italienne même, comme à Gênes, ou un théâtre classique, à faire une adaptation de lumière avec un jour de montage, de pré-montage. Et c'est formidable, vraiment je suis très très content, et c'est une personne adorable dans la vie en plus. Alors je vais venir sur la musique maintenant. Pour Arnaud, alors on avait prévu de travailler avec des musiciens brésiliens et que ce soit nos partenaires brésiliens qui soient commanditaires de cette musique là-bas à Rio. Ça tardait un peu à se mettre en place parce que voilà, le Brésil fait un peu tout au dernier moment, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on pouvait pas, vu que les décisions budgétaires n'étaient pas prises au Brésil, on pouvait pas parler avec des musiciens là-bas sans savoir. Donc le temps passait. Et à Rio, je me suis inquiété. Je me suis dit, bon, si on veut de la musique, peut-être quand même que je vais faire venir quelqu'un. Et donc, on s'est rappelé avec Raquel, on avait reçu une compagnie qui s'appelle Cirque Avec. Et Arnaud était là, il faisait une improvisation de musique, c'était un temps de recherche. Et Raquel et moi, on avait dit, il travaille très très bien ce type, il est super. J'ai juste dit bonjour, mais sans penser du tout à le faire travailler, on était loin de là. Et puis, quand on s'est retrouvé à Rio, comme ça, je ne sais pas si c'est elle ou moi qui avons repensé à Arnaud qu'on avait vu. Et je connaissais quelqu'un qu'il connaissait, donc je pouvais avoir son contact, j'ai pu l'appeler, lui dire, voilà, on en est là, ça t'intéresse le projet, je lui ai raconté en 5 minutes. Ah, il m'a dit, oui, je veux le faire. Je dis, bon, alors si tu veux le faire, tu vas le faire. Ça, c'était la bonne réponse. On n'a pas parlé d'autre chose. Je lui ai dit, quand est-ce que tu peux arriver? Tu peux arriver là début août. Il m'a dit, je peux pas arriver avant le 18 août, j'ai des engagements. Mais je veux le faire. Je lui dis, bon, ben, si tu veux le faire, tu vas le faire, tu auras 3 semaines pour faire une création musicale, ça va être difficile et tout. Oui, mais je veux le faire. Donc Arnaud est venu et ça a été miraculeux. Vraiment, c'est quelqu'un de formidable qui est vraiment, et humainement très facile à travailler, parce qu'avec les compositeurs et les musiciens, c'est à chaque fois différent. Des fois, c'est difficile. Donc dans ces cas-là, je dis, mais le musicien est-il vraiment un homme? Donc c'est ma blague préférée. Mais il arrive parfois comme ça qu'il y a des rencontres. J'en ai déjà eu des très belles, hein, dans ce domaine. Mais avec Arnaud, ça se passe vraiment très très bien. Et humainement aussi, c'est quelqu'un qui est plus âgé que les artistes, qui, comme Rose d'ailleurs, et qui amène aussi du vécu. Et puis voilà, qui amène beaucoup aux jeunes et qui sont très 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 bien avec eux.
Il travaille d'ailleurs des projets avec.
D'ailleurs, oui, il commence à travailler avec Sarah, avec une des jeunes. On les reçoit au Créac là dans quelques jours.
C'est extrêmement important maintenant, la musique. Autant dans le cirque traditionnel, on avait une respiration musicale, autant là, la musique et la lumière sont extrêmement importantes pour comprendre le spectacle, pour les artistes même.
Oui, ça fait partie de l'écriture du spectacle, hein, l'écriture scénographique, l'écriture scénique. On sait maintenant que l'écriture scénique, l'écriture scénographique, c'est une véritable écriture. C'est pas un décor qu'on met par-dessus. Hein, c'est vraiment un élément. Là, il n'y a pas de texte dans ce spectacle, mais s'il y avait du texte, ça serait un élément au même titre que la lumière, que la musique, que le décor, hein, la structure, que les costumes, que tout est élément de langage.
Et en même temps, toi, tu maîtrises la structure, tu maîtrises l'écriture circassienne, la musique et la lumière, tu es obligé de déléguer quand même énormément de choses.
Non, je délègue dans plein de domaines, hein. Alors, parce que même si je dessine les structures et tout, de toute façon, il y a des éléments de discussion et je donne après à des ingénieurs qui font des notes de calcul et qui vérifient mes délires. De toute façon, tu as toujours besoin de compétences autres que les tiennes, et ça c'est important. Alors effectivement, dans le domaine de la musique, je ne suis pas musicien. Et dans le domaine de l'éclairage, je ne suis pas créateur de lumière et encore moins technicien. Et je veux surtout pas l'être d'ailleurs, parce que même si j'ai des connaissances, souvent je n'en fais pas part à personne. Parce que je préfère raconter ce que je veux à un compositeur et raconter ce que je veux à un créateur lumière, et que lui me propose son langage. Et après, c'est à moi de dire oui, on est dans la même histoire, on n'est pas dans la même histoire. Ou là, t'es trop bleu, je préfère plutôt plus rouge, enfin, je dis n'importe quoi. Mais je crois que ces langages et ces collaborations sont importantes, mais aussi dans le domaine de la mise en scène. Là, on partage la mise en scène avec Raquel, et quand ça fonctionne, c'est formidable. Ce langage comme ça, cette interpellation permanente, c'est vraiment très très riche. Et aussi le travail avec les artistes, hein, on les fait travailler, on essaye d'en faire des artistes interprètes créatifs, hein, de faire qu'ils proposent le plus possible. C'est pas évident quand ils sont jeunes. Mais on progresse.
Là, la structure qui est là, le kiosque, c'est pas toi qui l'as faite, mais par contre tu la connais par cœur, c'est toi qui la montes, qui la démontes.
Ouais, c'est Guy qui l'a dessiné, qui a donné le look, et après toute la technique, l'élaboration de la structure, je l'ai fait avec un cabinet d'ingénierie. Moi, je suis le lien en fait entre l'ingénieur et nos besoins de cirque, vu que je connais les deux. Je connais le cirque et la construction.
Hervé Biget, régisseur général.
Ouais, c'est une longue histoire. C'est 6 mois pour construire une structure comme ça.
Entre le moment où Guy décide et le moment où ça arrive livré.
Ouais, puis après, il te file le dossier et démerde-toi, quoi. Mais trouve-moi les tarifs les moins chers, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça parte en avion, il faut que ce soit pas lourd, il faut que ce soit tout démontable, il faut que ce soit conditionnable en petit. Il faut que ce soit prêt à telle date, il faut... Tu vois, c'est... Ouais, c'est vraiment... C'était un boulot énorme, quoi.
Après, ça, c'est un spectacle qui tourne relativement léger. Il n'y a pas énormément de personnel.
Ouais, assez. Scénographiquement parlant, c'est assez léger, en fait. C'est à peine une journée de travail pour monter la structure, tout ça, tout mettre en place à 5 personnes. Et après, c'est ce qui est plus long, ce qui demande plus de temps, c'est la lumière. Le son, ça va assez vite aussi, c'est la lumière. La lumière est longue parce qu'il faut tout installer, c'est haut, c'est en salle, ça va plus vite, mais à chaque fois, c'est ça qui nous rallonge. Parce qu'une fois qu'elle a fini d'installer, il faut qu'elle fasse des réglages. Et après, il faut qu'elle rende toute sa conduite, tout son patch, etc. Ça prend, il faut qu'elle répète toutes ses scènes, etc. Et c'est long, quoi. Ça, c'est long. Ouais. Et on est plus souvent en salle qu'en chapiteau, hein, de toute façon.
Ouais.
Ouais. Ouais.
C'est mieux, ça évite l'humidité dans les pattes et tout ça.
Ouais. C'est difficile le chapiteau quand même. C'est ouais, selon les conditions météo, en plus. Il nous arrive un truc avec Arcaos une fois il y a quelques années. Le chapiteau, il s'est déchiré, tout s'est détruit. Autour de notre structure, on avait une énorme structure à l'intérieur, plutôt cubique, qui montait à 7 mètres de haut, tout, il y a eu une tempête, le chapiteau a commencé à partir, il a commencé à se déchirer tout doucement, puis les toiles du chapiteau, ça se déchire pas comme ça. Hein. Et au fur et à mesure, il s'est éventré, il a fini en lambeaux au boulot même matin, il n'y avait plus que notre structure debout au milieu, de toute façon on ne pouvait rien faire, c'était incroyable. La structure et le gradin. Mais ouais, des fois c'est les conditions extrêmes du chapiteau. Si t'as trop de vent, tu peux pas jouer, ou alors t'es dans la poussière. La poussière rentre sous le chapiteau, le vent rentre, en fait élève la poussière dessous, et du coup tout est tout blanc tout le temps. Quoi.
Ce qui pour les artistes est pas terrible, hein, parce que ça glisse.
Ouais, non. Puis en hiver, comme ça aussi, c'est pas toujours forcément chauffable. Celui-là est assez étanche, ça va, on arrive à chauffer, mais un artiste de cirque, il a besoin d'être chaud pour travailler ce muscle. Et des fois, il fait tellement froid que même si tu t'échauffes, tes muscles restent froids, tu restes crispé. Et du coup, c'est là que tu te blesses. C'est là que tu n'arrives pas à bosser, tu te blesses. C'est une machine sensible, les artistes de cirque, ouais. Enfin, des machines.
La mise en sécurité de l'installation, c'est un gros boulot, ou c'est juste un souci, une concentration?
C'est dès la conception que ça se fait, en fait. Si ma structure, elle est aux normes, je l'ai fait vérifier, tout ça. J'ai pensé à la sécurité, j'ai de l'électricité, j'ai du triphasé dans ma structure. J'ai des artistes qui se promènent dessus, presque des corps à nu dessus, et qui sont constamment en contact avec. J'ai une décharge électrique dans ma structure. J'ai 4 artistes qui tombent de 5 mètres, tu vois. Il faut avoir des morts, quoi. C'est vraiment... faut pas faire n'importe quoi, vraiment. C'est sensible.
Tu disais que t'es parti technicien décor, puis aujourd'hui t'as ce rôle-là de régisseur général. T'as fait des formations pour valider ça?
Ouais. Comme je te disais, ça a été une longue progression, mais du coup, quand c'est technicien, je me suis perfectionné en technicien, tout du relu, etc., en tout ce qu'il fallait. Et puis après... je suis passé régie plateau, et puis je suis passé régisseur général, et j'ai bien vu qu'il me manquait des données, des connaissances en fait. Parce que tu connais le terrain, mais tu connais pas toute la législation, tout ça. Et ça, si tu vas pas l'apprendre, tu l'apprends, mais par bribes, ça prend des années, t'es jamais vraiment dans le coup. Quoi. Et du coup, je me suis fait un stage. De régisseur général, justement, qui était très lourd, très long, à Paris, 7 mois, qui est très dur, tu finis l'équivalent de Bac plus 4, qui est reconnu d'État, et tu finis avec une rédaction de mémoire pendant un mois, tu soutiens ton mémoire devant les professionnels du spectacle et tout ça, et c'est... quand t'as jamais fait ça, c'est vraiment un exercice difficile, quoi.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu parlais de ta reconversion. Guy m'expliquait qu'il y a le versant pratique amateur qui se développe par Chaos quand tu vas t'occuper. Et puis cette fonction-là de productrice, de responsable de tournée, c'est quelque chose que tu as envie de creuser?
Oui, vraiment, parce que c'est vrai que bon, j'ai toujours bien aimé moi l'administration, gérer un peu tout ça. C'est un domaine, même dans ma vie privée, quoi, où j'ai toujours été assez organisée par rapport à ça. Et ouais, j'ai envie de creuser, de faire justement, il y a l'AFDAS, donc, qui est un organisme de formation pour les gens du spectacle, faire des formations donc pour approfondir et me perfectionner plus dans tout ce qui est administratif, pour avoir plus de compétences justement dans tout ce qui est administratif et apprendre. Et après, essayer de continuer à aller vers ça, quoi. Dans la diffusion, rester dans la prod, je sais pas quoi, on verra, mais en tout cas, essayer de creuser, de rester là-dedans.
C'est un truc auquel tu penses depuis longtemps ou ça arrive relativement vite là maintenant ?
Non, depuis longtemps, longtemps non, mais j'y ai déjà pensé, quoi. Ça arrive pas comme ça. Disons que la reconversion, on y pense quand même. On y pense parce que quand on voit les années défiler quand même et qu'on voit la quarantaine approcher, cette putain de quarantaine, on se dit bon ben voilà quoi, en tant qu'acrobate, on sait très bien qu'on n'a pas, on va pas travailler avec son corps jusqu'à 60 ans quoi. Donc du coup, on y pense et voilà, et j'ai toujours aimé quand même rester... Dans le milieu. Donc, je me suis toujours dit, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire ? Et comme l'aspect administratif m'a toujours quand même assez plu, donc j'y ai pensé déjà depuis un moment. Bon, après, voilà, ça se fait doucement avec ça. Et donc, ouais, non, j'ai envie de continuer, quoi. De me donner les moyens, en tout cas, de continuer.
C'est facile, ça ?
De se donner les moyens ? Non, c'est pas facile, mais je suis une battante. Je pense que dans la vie, jamais rien n'arrive tout cuit sur un plateau. Et que de toute façon, il faut toujours se battre. Et quand on a la volonté, on y arrive. Hein. Donc c'est vrai que c'est des périodes pas faciles. Mais si on prend les choses à bras le corps et qu'on y va, moi je dis que de toute façon, dans la vie, les choses, quoi qu'il en soit, elles arrivent. Alors, il faut s'en donner les moyens et y aller. Voilà, une vie, on n'en a qu'une. Et si on est là, c'est pour en profiter. Donc, voilà, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie.
Aujourd'hui, c'est un projet un peu spécial pour lequel vous êtes au Domendo. C'est un projet d'insertion professionnelle monté avec des équipes, des écoles internationales. Ça se passe comment, un projet comme ça ?
Écoute, c'est un petit peu le hasard aussi qui provoque ce genre de choses. On avait une relation depuis plusieurs années avec l'école de cirque de Rio. Raquel allait donner des stages là-bas. Elle venait avec des profs de l'école donner des stages au CREAC à Marseille.
Guy Carrara, metteur en scène.
Et puis j'ai rencontré le nouveau directeur. Et au cours d'une discussion, il m'a dit « Mais ça existe, les scénarios de pièces de cirque ?» Et je lui ai dit « Bah écoute, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, il m'arrive d'en écrire avant de travailler, pas toujours, mais il m'arrive d'écrire au préalable. » Et il m'a dit « Bah tu m'enverras un truc ?» Et je lui ai dit « Oui. » Et puis, par hasard, 3 mois après, les éditions de l'Entretemps qui sont à Montpellier me demandent si j'ai un scénario à publier. Et en fait, je l'avoue, j'en avais qu'un qui était bien propre, que j'avais bien finalisé à l'époque, avec une dessinatrice qui a fait des beaux dessins, c'était pas mes gribouillis à moi. Et donc, j'ai dit à l'éditeur, j'en ai un sur lequel je n'ai aucun travail, donc je t'envoie celui-là. Et j'ai repensé à mon ami directeur de l'école de cirque de Rio, et je lui ai envoyé la même chose. Et de ce hasard-là est né ce projet, en fait, puisque par la suite, le directeur de cette école m'a demandé de venir remonter in vitro ce scénario avec ses élèves dans son école. Et comme il a beaucoup d'élèves, il m'a demandé d'en monter 2. Et en fait, à partir de là, on a discuté, on a décidé non seulement de travailler sur un projet d'insertion professionnelle, mais sa demande correspondait aussi au fait qu'il voulait secouer son équipe pédagogique. Donc il voulait qu'on travaille avec son équipe pédagogique dans le cadre d'une création à l'intérieur de son école. Parce qu'effectivement, tous ces profs étaient d'anciens artistes, ça, tous, mais vieillissants, qui sont fonctionnaires dans l'école depuis plus de 20 ans. Et donc, voilà, il y a une espèce d'habitude comme ça, on refait toujours les mêmes choses. Donc, il voulait stimuler tout ça. Donc, il a dit, en faisant une création dans mon école, on va entraîner toute l'équipe à revoir, à s'interpeller en tout cas. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est la première fois que quelqu'un me disait « Reviens monter une pièce ». Donc le travail sur le répertoire, qui est quand même une idée qui progresse, mais enfin très très lentement dans le domaine du cirque. Donc j'ai dit « Bon, c'est l'occasion, on va faire en même temps de l'insertion professionnelle, en même temps on va travailler sur le répertoire ». Le fait qu'il me demande deux spectacles fait qu'on a divisé un petit peu le projet en disant « On va monter une version dite à l'identique avec le décor d'origine » et avec les musiques d'origine, avec des élèves en cours de formation, donc projet pédagogique, puis un deuxième avec des jeunes qui sont de l'école, mais diplômés, hein, donc des jeunes professionnels, puisqu'ils ne sont plus dans l'école, ils sont sortants. Et il se trouve par hasard qu'à cette époque-là, on m'a ainsi interrogé, le Centre National des Arts du Cirque m'a fait participer à une réflexion sur l'insertion professionnelle des jeunes qui sortent du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-Champagne. Et là, ils m'ont dit « Bon, alors, qu'est-ce que tu proposes ?» J'ai dit « Ben là, j'ai un projet avec Rio. Si vous voulez, je demande à Rio s'il m'autorise à laisser deux places pour vous. » Et Rio m'a dit « Oui, d'accord, deux du CNAC en France, ok. »
Finalement, ce projet avec l'UNC, dont tu as été une des élèves, c'était un projet que tu as porté, toi, vraiment beaucoup.
Oui, c'était un rêve de revenir dans mon pays, de revenir dans mon école, l'école que j'aime, qui m'a ouvert les portes pour un métier merveilleux. Et je voulais faire quelque chose comme un retour. Un retour, et l'école m'a donné quelque chose, je voulais rendre à l'école. Quelque chose que j'ai vécu et que je voulais donner. Donc du coup, c'est vrai, je portais beaucoup ces projets en pensant à ça, le retour. J'ai reçu et que je retourne à ces gens-là, à ces pays-là, quelque chose.
Et puis le hasard encore fait que très peu de temps après, la Fédération Européenne des Écoles de Cirque me fasse participer à un débat sur aussi l'insertion professionnelle, le rapport de la formation et du marché. Et à la buvette, j'ai parlé de mon projet, et là, toutes les écoles voulaient participer également. Donc j'ai dit, bah, écoutez, j'ai pas de la place pour tout le monde, mais on a quand même rajouté la place pour un élève de Circus Space, donc l'école supérieure de Grande-Bretagne à Londres, et puis une autre place pour l'ESAC, l'école supérieure des arts du cirque de Belgique, donc à Bruxelles.
C'est différent, le spectacle, le produit final, il est différent d'un produit classique, en tout cas de ce que Arcaos a pu monter ces 20 dernières années.
Bon, on a toujours eu des jeunes qui sortaient très souvent de l'école. Là, l'originalité, c'est qu'ils sortent tous de l'école, donc ils n'ont pas d'expérience. C'est un peu particulier, mais en même temps, c'est clair du départ. Donc nous, on a une méthode, une méthodologie qui tient compte de cette problématique, qui est effectivement, ils découvrent le monde, ils découvrent tellement de choses qu'ils sont en train d'apprendre là, qu'on se met donc au service de cette problématique. Donc du départ, c'est intégré, c'est différent, ça va être difficile sur un temps très court de leur faire intégrer tellement de choses qui sont évidentes par la suite, mais qui ne sont pas au démarrage. Donc c'est ça, il y a une difficulté au démarrage, parce que c'est un clan de jeunes. Il n'y en a pas un quart, un tiers, ou même que la moitié. C'est tout le monde. Hein. Donc il n'y a pas de transmission à l'intérieur du groupe par d'autres générations, des artistes plus anciens. On a fait la transmission dans l'encadrement. Hein, donc ce sont d'anciens artistes d'Arcaos qui sont venus encadrer à Rio. Certains avaient fait partie d'ailleurs du premier in vitro il y a 10 ans. Et puis là, sont venus accompagner comme Valérie, donc, que tu as rencontré ici, mais aussi Dirk, qui est enseignant au CNAC maintenant, et qui est venu à Rio aussi, et qui était dans In Vitro 99. Donc la transmission, on ne l'a pas fait à l'intérieur du groupe, parce que d'habitude, ça se fait par l'intergénérationnel à l'intérieur de la compagnie. Voilà, donc c'est un petit peu spécifique. Donc pour nous, on est vraiment concentré sur le fait qu'on fait l'insertion professionnelle. Voilà. Après, le produit fini, il est ce qu'il est. Ça veut dire que comme toutes les créations, de toute façon, on a eu un temps donné de travail. Et puis voilà, donc il en manque toujours un peu. Mais en même temps, nous, on est très contents parce qu'on voit que c'est un spectacle qui a un grand potentiel. Et voilà, on y croit. Et puis, on voit que ces jeunes progressent en fait très, très rapidement. Hein, parce que en 3-4 mois, déjà, ils prennent du métier. Et ça va assez vite.
C'est la fin là, du processus d'insertion, enfin du contrat en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Alors maintenant, sur les 9, donc il y en a 3 qui ne vont pas continuer. Sur les 6 Brésiliens, donc il y en a 3 auxquels on ne renouvelle pas le contrat. Et donc eux vont rentrer au Brésil avec cette expérience qu'ils ont eu la chance de vivre. Et donc on va leur faire un petit dossier de ce qu'ils ont vécu et puis c'est un petit peu comme un compte-rendu de stage. On va leur dire, voilà, il s'est passé ça, tu as vécu ça, tu es comme ça, toi tu devrais faire ceci, cela, voilà nos conseils. Et profite bien de cette expérience que tu as vécue. Donc pour chacun des 3, c'est un petit peu différent. This house is a circus, berserkers, fuck. We tend to see that as a perk. Though look what it's done to your friends. Their memories are pretend. And the last thing that they want is for the feelings to end. This house is a circus, berserkers, fuck. We tend to see that as a perk.
La carrière de circassien au Brésil, c'est plus dur qu'en France?
C'est dur la carrière de circassien.
Tout court.
En Brésil, en France, c'est différent, mais c'est toujours dur. Parce que le moins dur, c'est l'opportunité de travail. Que ici, c'est vrai qu'en France, tu as plus d'opportunités qu'en Brésil. Mais c'est toujours dur parce que physique, c'est un travail physique. Tu es toujours en tournée et tu n'as pas bien des maisons et ton place, tu vois. Et pour ça, c'est dur. Mais en Brésil, c'est plus difficile pour avoir une vie équilibrée avec l'argent et tout ça. Tu dois... C'est beaucoup d'efforts pour faire, pour être bien. Mais il y a aussi autre chose, différent.
Tu travailles combien d'heures par jour? Combien de temps tu t'entraînes? Combien de temps tu es obligé de faire travailler ton corps?
Normalement, quand j'ai pas de spectacle, j'aime bien avoir 5-6 heures au jour. Je me ferme pour manger, un jour tranquille d'entraînement, 6 heures, 7 heures, je ne sais pas. Ça dépend qui est ce que j'ai en tête pour faire. Mais 6 heures, pour moi, ça va. Comme ça, je peux faire préparation physique, faire un peu de création, faire un peu d'essai, un peu de tout.
Quand tu es en spectacle, une journée comme aujourd'hui, tu as commencé le travail à quelle heure?
Aujourd'hui, j'ai commencé à 3 heures, le spectacle est à 7 heures. Je suis arrêtée à demi-heure, plus ou moins. Non, c'est pas, mais toujours 5 heures, ça va pour faire. S'il y a un spectacle ou pas. Mais s'il n'y a pas, je peux faire 5, 6, 7, 8. Mais s'il y a le spectacle, c'est bien. Parce qu'ici, on a 6 jours. Alors, c'est bien pas faire beaucoup chaque jour, parce que sinon, de demi-heure. C'est difficile.
Alors Sarah,
oui,
raconte-moi. Qu'est-ce que c'est toi ton agrès?
Mon agrès,
ta spécialité.
Ma spécialité, c'est le fil souple. Et dans le spectacle, je fais plutôt le fil souple et la femme parfaite. Donc, je joue avec mon personnage et avec les deux hommes en laboratoire et le professeur. Ouais. Voilà. Et là, je fais un peu de danse, de mama, tout un petit peu.
Tout un petit peu. Tu parles bien français?
Ça va, pas trop.
Tu as appris le français quand?
Au CNAC, quand je suis venue en France, quand j'avais fait l'école du cirque en France, il y a 300.
Voilà. Et avant, tu avais fait une école du cirque en Allemagne?
Oui, voilà. Avant, j'en ai fait une école du cirque à Berlin. Ouais. Et après, j'ai travaillé un an, un petit peu, et après, j'ai décidé de faire plus, de rencontrer le cirque en France.
Et alors, Arcaos, c'est comment?
C'est intéressant. Voilà.
C'est un drôle de mélange, hein? Tous ces, les Brésiliens, un Anglais.
Oui. C'est super intéressant avec les Brésiliens, avec l'anglais. Voilà. Arcaos, c'est intéressant.
Et t'as trouvé ta place rapidement dedans?
Oui, mais on n'est jamais. On cherche toujours. Justement, dans le spectacle, on n'a jamais fini de chercher, d'y aller plus loin, de développer. Voilà.
C'est une drôle de discipline, la corde souple. On n'en voit pas beaucoup.
Non, on ne voit pas souvent parce que c'est difficile.
Oui, c'est difficile. Hein.
Oui, c'est difficile. Voilà. Je crois que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais c'est un bon une bonne rapport avec la vie.
Ouais.
On est toujours en train de chercher l'équilibre, ouais. Comme dans la vie. Si on tombe, il faut remonter, comme dans la vie.
Tu travailles beaucoup?
Oui, pas mal. Ouais. Il faut, sinon le fil souple, c'est trop dur. Il faut toujours répéter, il faut toujours reprendre. C'est ça qui est le plus chiant. Ouais. Mais bon.
Salut Louis.
Salut.
Toi, tu es un artiste brésilien qui a été formé en Belgique. Tu fais le pont comme ça entre l'Europe et le Brésil.
Oui, bah, pour des projets, je suis les Belges de l'histoire. Moi, j'ai vécu 4 ans là-bas. J'ai fait les AX, c'est une école de 3 ans. Et voilà.
Dans le spectacle, tu es le méchant, le professeur. Et c'est quoi ta spécialité?
Ma spécialité au cirque, c'est la jonglerie. Je suis jongleur, mais aussi acrobate. Et dans le spectacle, je joue aussi la batterie, je fais du patin. Et voilà, je suis le professeur, mais pas... Voilà, je suis méchant, mais pas 100% méchant, quoi.
En même temps, tu as un élément important du spectacle, tu es celui qui permet de raconter, en fait, l'histoire.
Voilà. On dirait les protagonistes, en français. Oui, voilà. Je suis le protagoniste.
Ça demande beaucoup d'entraînement, la jonglerie. Et beaucoup de concentration, non?
Oui, mais pour ces spectacles spécifiques, j'ai fait déjà des choses que j'ai fait depuis longtemps. Il y a ici les trois figures qu'il faut bien que je bosse avant, parce que c'est délicat quand même. Mais sinon, ça va. Mais la jonglerie, c'est une chose que tu dois faire tous les jours, quoi. Parce que sinon...
Tous les jours, tu t'arrêtes pas?
Bon, maintenant, je m'arrête quand même. Pendant le week-end et tout, je fais des pauses. Mais je passe, je sais pas, je dirais 7-8 ans de ma vie, presque tous les jours.
Quel âge tu as, Louise?
27.
27 ans? On peut jongler jusqu'à quel âge?
Tard.
Par rapport à un acrobate, c'est une durée de carrière qui peut être plus longue?
Ouais, l'acrobatie, on arrête vers, je sais pas, 40 ans. Ou même à 20, ça dépend. Ça dépend de chacun. Mais la jonglerie, on peut jongler jusqu'à vieux, quoi. Ouais. C'est pas trop physique, c'est surtout la tête.
Ouais.
C'est la coordination.
Mardi, backstage.
Je peux vous demander vos impressions, hein, puisque vous étiez en train de les donner à tout le monde.
Elle est en train de dire quelque chose de très intéressant.
Écoutez, bah oui,
bien.
Je crois.
Alors, dites-moi. Attendez, c'est quoi ce
Radio Divergence FM?
Ah,
allez, vas-y, Sophie.
Allez, c'est une bonne radio. C'est une bonne radio.
Toute la question.
C'est une radio locale, c'est bonne.
Je trouvais que c'était super intéressant. Parce que, dans un premier temps, on a quelque chose qui serait plutôt autour de la morbidité, avec quelque chose de déshumanisant. Voilà. Tant qu'ils sont dans du double. Et au moment de la séparation, c'est vraiment la pulsion de vie. Avec beaucoup de sensualité et en plus, c'est vrai que je crois que ce groupe était vraiment, on va dire, ils étaient tous géniaux, quoi.
Bonsoir, je peux vous demander vos impressions?
Oh ben oui, alors ben, j'étais en train de parler à mes enfants, à ma famille, à mes amis et dire qu'on avait adoré cette fraîcheur. On sentait qu'on était à la naissance de quelque chose de formidable et de très frais. Voilà, on sort avec beaucoup de bonheur.
Vous connaissiez Arcaos avant?
Oui, je connaissais. Oui, je les connaissais parce que sur Alès, je les avais vus à leur tout début dans des sortes de spectacles de rue, il me semble, il y a bien longtemps, hein, plus d'une décennie sûrement.
Oui, largement.
Voilà.
Et les enfants, ils ont aimé?
Ben oui, écoutez, c'est bien, puis ils ont leurs impressions selon les âges, il y en a une qui se cache. Voilà, il faut leur demander.
Ça va être dur. Hein. Bon alors les grands.
Bonsoir.
C'était bien?
Oui, très bien. Excellent. Beaucoup de fraîcheur, de jeunesse et dynamique et tout, c'est sympa.
Tu vois du cirque beaucoup toi?
Ben là oui, ici ça fait 2-3 fois que j'ai un spectacle à Haut. Et
Domaine d'eau, ouais.
Voilà. Donc si c'est là, c'était sympa.
Et toi? La musique fait beaucoup aussi.
Christopher, un petit mot?
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, cette deuxième soirée d'Arcaos.
Plus serrée ce soir, plus tendue.
Christopher Crimes, directeur du domaine d'eau.
Plus performant. Ouais. Non, plutôt une bonne réception du public aussi.
Très bon public.
Très bon public, bien attentif. Pourtant, il y a des moments où il faut beaucoup de concentration et la diversité de l'âge. Mais tout le monde est là, tout le monde a bien adhéré, me semble-t-il. Et quand on voit que ce sont effectivement ces jeunes internationaux sortant de différentes écoles qui travaillent vraiment pour la première soirée ensemble, donc je trouve ça très très bien. C'est une belle proposition et je suis content de l'accueil que le public lui a donné.
Il y a du monde, hein ?
Il y a du monde, c'était presque plein ce soir. On a une jauge de 500 places sous ce chapiteau et on n'était pas loin des 500 ce soir.
Production,
réalisation, François Barrez,
Vincent Cavaroc.